Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. S'il y a une conclusion à tirer de toutes les histoires que vous nous racontez ici, c'est que dans la vie, rien n'est figé. Les épreuves peuvent être balayées et surtout l'amour bouscule toutes les certitudes. Au cas où vous penseriez qu'il n'y a plus d'espoir, l'histoire de Solange va faire revenir la lumière dans vos têtes, croyez-moi.
On est en 96, j'ai 29 ans. Je travaille dans une société d'agencement de magasins depuis l'âge de 20 ans. J'adore mon boulot, j'aime apprendre. Je commence cette vie professionnelle par un stage. Je passe de stagiaire à secrétaire, puis à commercial, puis je prends des parts dans la société et j'en deviens gérante. Alors, je suis très bien dans ma vie professionnelle. Ma société devient mon bébé, en fait. Je fais que ça, mon boulot. Je rencontre Eric à l'inauguration d'un magasin pour lequel mon entreprise avait fait l'agencement. Eric avait participé aux travaux de ce magasin en tant que sous-traitant. Alors tous les deux, on se connaît. On habite le même village et on décide de prendre un seul véhicule pour y aller. Enfin, disons plutôt qu'il me propose qu'on y aille ensemble. Alors je connais son côté un peu, ma femme. Mais là, je me dis qu'une nana comme moi, ben, ça peut pas l'intéresser, quoi. En plus, je suis à cette période-là assez pas très avenante, je suis assez triste, toujours en noir, très engagée dans mon boulot. C'est une sorte d'échappatoire pour moi par rapport à une expérience amoureuse très compliquée à l'âge de 19 ans. Donc nous voilà à l'inauguration, qui s'enchaîne avec un petit restaurant, tête à tête. On parle de tout, de rien. Et alors c'est pendant le trajet de retour que tout commence. Il pose sa main sur ma jambe et là, boum, c'est le cœur qui s'emballe. On se fait quelques bisous avant de rentrer chacun chez soi. Puis on se revoit de temps en temps. Pour moi, c'est le début d'une aventure, avec ou sans lendemain. Il a du charme, il a cette prestance qui fait que il me plaît. Il y a quelque chose qui se passe entre nous, surtout moi. Voilà, j'ai un petit coup de foudre, on va dire. Je sais qu'il est divorcé, par contre qu'il a un garçon de 9 ans, qu'il garde tous les week-ends. Et du coup, ben, on va se voir qu'en semaine. Son fils, lui, ne me connaît pas, mais il veut pas entendre parler de moi. Donc ça devient un petit peu compliqué, du coup, la relation, mais j'accepte que son fils soit sa priorité. Cette situation va durer 3 ans. Eric me fait comprendre alors qu'il ne veut pas d'autres enfants, qu'il ne se remariera pas, qu'il tombera jamais amoureux de moi, enfin voilà quoi. Mais j'accepte, toujours. Moi, j'ai été mariée, voilà, quoi, je profite de la vie, n'attends pas que je tombe amoureux, voilà, c'est une aventure entre nous, mais bon, j'accepte toujours. Sauf que mes sentiments deviennent de plus en plus forts. Et puis, en plus, son fils commence à m'accepter, et on devient complices tous les deux avec son fils. Et ben, les années passent, on se voit de plus en plus souvent. Mais lui, toujours dans ses positions de pas d'enfant, pas amoureux, pas de mariage. Sauf que moi, ben, ça commence à changer, quoi, j'ai envie d'un enfant. J'ai 34 ans, et lui, il en a 38. Donc il me dit, ben non, je te l'avais dit, moi je veux pas d'enfant. Donc j'ai dit, ben écoute, alors on se sépare, donc je suis malheureuse. Ça dure, allez, un mois ou deux, j'ai plus vraiment la notion du temps de séparation. Je me remets à fond dans mon boulot, mais le revoilà venir toquer à la porte en me disant, ben écoute, je suis malheureux de mon côté aussi, je tiens à toi, je veux un enfant. Mais toujours hors de question de parler de mariage, voilà. Je veux pas me remarier, j'ai déjà vécu ça, je suis divorcée, voilà. Pour moi, ben, en fait, peu importe, hein, la preuve d'amour la plus importante, c'est pas le mariage à l'époque, à cette période-là. Notre amour, c'est avoir un enfant ensemble, en fait. On se met ensemble, parce qu'on avait chacun notre appartement. Là, on prend une maison, je tombe enceinte, je deviens maman d'un petit homme, toujours passionnée par mon travail quand même, un peu trop même. Parce que être maman et chef d'entreprise, ça demande beaucoup d'énergie. Lui, de son côté, m'alerte à plusieurs reprises. Il me dit « tu penses qu'à ton boulot, t'as pas de frontière entre le vendredi soir et le week-end, tu ouvres ton ordi le samedi, tu réponds à des appels, tes clients et tout. » Donc il y a un peu des tensions, quoi. Il me demande un peu de mettre un frein, mais moi je suis à fond dans mon truc, mon entreprise c'est mon bébé. Même si je m'occupe quand même de mon fils, hein, je prends des temps de quand il est au primaire, faire les sorties avec lui, etc. Et puis arrive fin 2017, c'est l'année de mes 50 ans, et bim, un burn-out. Vient toquer à ma porte pour me dire que j'oublie l'essentiel en fait, profiter de la vie et m'occuper de ma famille. Le burn-out, c'est un matin, je me réveille et je regarde le plafond et là je me mets à pleurer et là il comprend pas, il me dit mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu as? Je dis je peux plus, j'arrive pas à me lever, je peux pas aller ouvrir l'atelier, j'arrive pas. Il me dit écoute, reprends-toi, on va appeler le médecin, on va voir ce qui se passe et tout. Alors je me renferme sur moi-même, je ne veux plus voir personne, je suis l'ombre de moi-même, Eric et mon fils qui a alors 14 ans ne me reconnaissent pas. Et puis alors là c'est la grosse prise de conscience. Après 30 ans consacrés à mon travail, c'est beaucoup de questionnements sur ma vie d'après. Là, Eric, il croit à moitié, me connaissant hyperactive, toujours au boulot et tout, il ne me reconnaît pas. Mais moi, de mon côté, là, je prends conscience que personne n'est indispensable dans sa vie professionnelle. Mais que la famille et l'amour des siens et de soi, ça, c'est l'essentiel. Là, j'ai vraiment le déclic, quoi. Faut que j'arrête de bosser comme ça, quoi, c'est pas possible. Je veux vraiment profiter de la vie, quoi. Parce que c'est ça, c'est le plus important. Le travail, c'est secondaire. Je passe 3 ans à vivre des moments intenses avec Eric, avec mon fils. Je prends le temps de m'occuper de moi, de ma famille, de mes amis. Je prends le temps de voyager, de sortir, de faire des restos, de recevoir, d'aller chez des amis. On fait tout plein de choses ensemble, avec mon fils aussi. Ça fait énormément de bien de se retrouver, de voir cette fusion. Voilà, quoi, ne pas penser tout le temps au travail, d'être fusionnel, tous les trois. Prendre le temps de faire plein de choses. Un matin, je me réveille et je me sens une petite boule sur le côté du sein. Et là, je dis à Eric, j'ai quelque chose qui n'est pas habituel, quoi, j'ai cette boule. Effectivement, c'est bizarre, faut que tu consultes. Donc, je prends rendez-vous pour une mammographie. J'ai la chance qu'un rendez-vous se libère rapidement, 2-3 jours après. Donc là, mammographie, échographie. Le médecin qui me reçoit me dit, il n'y a rien sur les clichés. Je lui dis, mais docteur, j'ai mal. Vous sentez bien la boule? Elle me dit, oui, je sens la boule, mais honnêtement, sur les clichés, je ne vois rien. Et vous inquiétez pas, un cancer, ça fait pas mal. J'ai dit, ok, mais moi, j'ai mal. Je sens une douleur. Bon, j'avais été diagnostiquée fibromyalgique une quinzaine d'années auparavant. Et là, je sens qu'elle ne me prend pas trop au sérieux. Je suis un peu la malade imaginaire qui a mal à sa petite boule, là. Je lis le compte-rendu, effectivement. Elle conseille à la patiente de voir sa gynéco pour des antidouleurs. Et j'ai pas d'ordonnance d'IRM ou de scanner pour me rassurer, quoi. Donc me voilà rentrée à la maison et j'en discute avec mon mari. Il me dit non, mais tu peux pas rester comme ça, il faut consulter ailleurs. Et là, le hasard, voilà, je pense que les hasards, ce hasard-là a été mis sur mon chemin, pas pour rien. Eric est pessimiste, il a un client qui est radiologue dans un hôpital marseillais. Ce client lui dit, écoute, dis à ta femme, la semaine prochaine, je lui fais avoir un rendez-vous, ça s'appelle un circuit court, avec une gynécologue qui va la consulter. Me voilà donc une semaine après avec la gynéco, qui me consulte, qui sent la boule, qui me fait une échographie, qui dure assez longtemps, l'échographie. Et je vois qu'elle insiste, elle appuie, donc ça me fait même mal, elle appuie avec l'appareil d'échographie. Et elle me dit, vous avez quelque chose, c'est très très profond, mais il y a quelque chose. On va vous faire une biopsie. Voilà qu'une semaine après, je me retrouve dans le cabinet de la gynécologue qui m'annonce que j'ai un cancer du sein. Un cancer du sein pas comme les autres. Elle me dit, votre cancer du sein est très agressif. C'est un triple négatif. C'est un cancer qui métastase au poumon, au cerveau. Ok, là je commence un peu à m'effondrer, mais j'écoute, elle me dit, il y a aussi autre chose, vous pouvez être porteuse du gène BRCA. pour la petite histoire, Angelina Jolie avait ce gène et elle s'est fait enlever les seins. Elle n'avait pas de cancer, mais comme elle était porteuse de ce gène, obligatoirement, quand on a ce gène, ben, on finit avec un cancer du sein. Donc elle me dit, si vous êtes porteuse de ce gène, eh bien, il faudra enlever les seins et les ovaires. Bon, là, toutes les annonces là, sont dans ma tête et je repars de l'hôpital. Avant d'entrer dans la voiture, ben, je suis en pleurs, bien sûr. Là, j'appelle mon mari, je lui raconte, ma sœur, mon ami. Et là, je rentre. Je ne sais pas comment je suis arrivée à la maison. C'est ma voiture qui m'a ramenée toute seule. Et là, ben voilà, avec Eric, c'est la catastrophe, quoi. Notre vie va prendre un tournant. Et donc, les examens s'en suivent. Par chance, je fais un TEP scan. Le cancer a été pris à temps. Bon, la tumeur fait quand même 37 mm. Il est à un stade assez élevé, mais il n'est pas métastasé. Ça, c'est la chance qui va faire que... On va attaquer un protocole. Je vais bénéficier d'un nouveau protocole basé sur de la chimio et de l'immunothérapie. On prévoit une tuméroctomie, le test génétique, pour voir justement si j'ai pas ce gène. Puis il y aura aussi de la radiothérapie. L'annonce de ce cancer, c'est un coup de massue pour nous, mais on décide tous ensemble de se battre avec mes amis, ma famille, mon fils, Eric... En fait, je prends la décision de beaucoup communiquer sur ce cancer. Je ne vais pas le cacher. Je commence du coup la chimio, mes cheveux, bien sûr, commencent à tomber. Et là, on décide de raser mon crâne de manière ludique. À la base, ça devait être Eric et mon fils. Mais mon fils ne s'est pas senti de le faire le jour J. Et c'est du coup ma meilleure amie qui l'a fait avec Eric. Je choisis le 8 août, la date de naissance de mon fils, pour le faire. Pour moi, c'était symbolique. La féminité, c'est pas seulement avoir des cheveux, c'est être maman, c'est... Pour moi, c'est symbolique, cette date, ce 8 août, date de naissance de mon fils, pour montrer qu'allez, faut se battre pour son enfant. Même si t'as pas de cheveux, ben, tu peux être féminine et rester maman. On fait une petite... Pas une mise en scène, mais comment dire... Bon, elle me dit, allez, tu vas te mettre des créoles, du rouge à lèvres, un petit miroir posé en face. Alors, il faut dire que 4 jours avant, je commençais à perdre mes cheveux. Pendant 4 jours, j'ai pleuré, en fait. J'ai pleuré de savoir à quelle tête j'allais avoir sans cheveux. Et ça faisait partie de moi, les cheveux. Au fur et à mesure que mon mari me tond les cheveux, me rase le crâne, mon visage s'illumine. Je me découvre sans cheveux et je m'aime bien, je trouve que ça me va bien. En plus, j'ai les créoles, j'ai le rouge à lèvres. Je commence à communiquer sur mon cancer, mais je choisis l'humour et l'autodérision. Ça fait partie de mon quotidien. C'est une force, en fait, pour moi. Je commence la chimio mi-juillet. C'est des petites stories sur Instagram. Par exemple, je sais pas moi, Wanted, mes globules blancs, ils sont partis en vacances, j'en ai besoin pour, voilà. Ou à Noël, je suis allée à la chimio avec un bonnet de Père Noël. Ou les effets secondaires de la chimio, avec un bouton qui me poussait sur le front. Je me suis mis une corne de licorne sur le front. Voilà, en disant, je peux pas, j'ai licorne. C'est une force pour moi de vivre ce cancer et cette épreuve avec l'autodérision. Je me trouve une force que je ne soupçonne pas. Avant la maladie, je dis à Eric, moi, si un jour il m'arrive une maladie grave, bon, il y avait la fibromyalgie, mais je m'en étais fait une raison. Mais je lui dis, si ça m'arrive, je me laisserai aller, j'aurai du mal à m'en sortir. Sauf que quand la maladie est là, ben en fait, il y a une force intérieure, une rage de vivre et de pas partir, quoi. Elle est là, quoi. Elle est intense. Je comprends que cette force qui me porte, elle est due déjà à Eric qui est là, avec cet amour inconditionnel. Quand on va en chimio, je l'entends une fois dire au téléphone à un ami à lui, tu nous invites mercredi ? Non, mais mercredi, on sera fatigué. On a chimio le lundi. Donc ce « on » qui... En fait, on lutte contre le cancer tous les deux. Je peux pas la laisser. On est une équipe, il ne me laisse jamais seule. Les seuls moments où ben, il a des impératifs, il travaille, donc c'est mon fils qui prend le relais. On est une équipe, j'ai mes guerriers, j'ai mes amis, j'ai des SMS. Je prends tout type de messages qui me réconfortent. La chanson de Clara Luciani, « Sous mon sein, la grenade ». Une chanson aussi qui fait partie de mon parcours, parce que quand je rase mon crâne, du coup, sur les réseaux sociaux, je m'abonne à des hashtags « crâne rasé ». Et là, je tombe sur une annonce d'une association qui s'appelle le Gang des crânes rasés, association qui m'aide énormément pendant mon cancer. Ils organisent pour Octobre Rose un défilé. Cette association milite pour le dépistage avant 40 ans. Je vois cette annonce et donc j'écris. Je dis, bon, ben, pourquoi pas, allez. C'est un événement sur 3 jours, chaque année pour Octobre Rose. On est maquillés, il y a un shooting photo et un défilé avec, à la fin du défilé, c'est assez symbolique, c'est donc un jeté de perruques. En octobre, moi je suis avec mon crâne rasé, il y a d'autres femmes qui ne l'ont pas, mais on a toutes nos perruques et à la fin de ce défilé, sur lequel moi je défile avec la chanson « Sous mon sein, la grenade », à la fin de ce défilé, il y a un lâcher de perruques et là, c'est les pleurs, c'est les frissons, c'est assez symbolique. Et cette association, ben, du coup, j'y adhère et on fait des choses ensemble et ça m'aide beaucoup. Une des présidentes est beaucoup dans l'autodérision et l'humour sur les réseaux sociaux, ce qui me donne un peu envie de vivre la maladie de cette manière-là, en fait. Ne pas cacher, il faut montrer que le cancer, ça peut se vivre intensément, avec humour, et que voilà, j'ai cette force et je vais y arriver. Eric est là, tout le monde est là. Eric est admiratif de ce combat que je mène, enfin qu'on mène du coup, hein, parce qu'il a du mal à me reconnaître. Et pour moi, la décision est prise, je veux m'en sortir. Je ne laisserai pas ce cancer me laisser partir, quoi. Je me bats. On se dit, allez, on va le dégager, on va y arriver. Puis je fais plein de choses, avec lui, toujours. C'est jamais sans lui, c'est toujours avec lui. Octobre rose, toujours, il y a une régate rose. Alors moi, il faut préciser quand même que j'ai peur de l'eau. J'ai failli me noyer à l'âge de 14 ans, donc moi, si j'ai pas pied, c'est pas possible. Et puis je me lance, allez, un challenge, allez, une régate, allez, pourquoi pas. On fait ça ensemble, il vient avec moi. Ce jour-là, grand vent. Donc, inutile de dire que ben, les voiliers, ils sont un peu, on va dire, à l'horizontale, quoi, plutôt qu'à la verticale. Mais aucune sensation de peur. Il est là, je suis rassurée. Je fais quelque chose dans ma tête, ben, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Avec tout ce que m'a dit la gynécologue, c'est quand même un tableau noir qu'elle m'a décrit. Et je me dis, bah, allez, c'est peut-être tes derniers mois, tes dernières années, donc vas-y, bah, fais tout ce que tu n'as pas fait dans ta vie, fais-le. Donc je fais cette régate et j'en ressors encore plus motivée pour m'en sortir, quoi. On va continuer, on va se battre, on va faire des choses. Cette épreuve crée un lien très 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 fort, une complicité. Cette maladie a scellé notre couple plus. Je me rends compte qu'Eric c'est mon double, quoi. Quand on parle autour de nous de ce qui nous arrive, bien souvent on entend « Ah là, mais son mari, à elle, quand il a appris qu'elle avait un cancer, ben, il s'est barré. » Et c'est souvent ce qui en ressort, en fait. La maladie fait peur aux hommes. Mais Eric est là, quoi. Eric, au contraire, c'est... Non. Ne serait-ce que juste une radio de contrôle, il est toujours là. Toujours présent, toujours... Quand je sors de chimio, ben, bien sûr, c'est les vomissements, il est là, il est toujours auprès de moi, il ne me laisse pas. Toujours à mon la nuit, il me regarde dormir. Eric est un pilier pour moi. Les aidants, c'est une épreuve pour eux, la maladie. Ils souffrent autant que la personne malade. L'aidant est impuissant devant la maladie de l'autre. Il me tient la main quand je ne suis pas bien, mais je sens qu'il est là. Dans son regard, il y a de l'amour, mais aussi de l'impuissance. Et on sent qu'il ne sait pas quoi faire. J'ai su après que bah il a beaucoup pleuré, mais jamais devant moi, jamais. En parlant, ça, il y a des émotions là qui remontent. Donc il a énormément souffert en fait, lui aussi. Et on continue à se battre. Et fin 2022, l'équipe médicale nous annonce que le protocole dont j'ai bénéficié, qui était un nouveau protocole, hein. J'ai été, on va dire, un peu une patiente cobaye de ce traitement. Ben, on nous annonce qu'au bout de 4 mois, c'est un succès. Il n'y a plus aucune trace de la tumeur. Mais il va falloir continuer le traitement encore jusqu'en juillet, juillet 2023. Et c'est alors que là, ben, notre histoire va prendre tout son sens. Eric me dit, ben, tu sais quoi ? À la fin des traitements, je t'épouse. C'est l'homme qui me disait « Ouais, moi je t'avertis, hein, je veux pas d'enfant, je veux pas de mariage, je tomberai plus amoureux. » Et là, je me dis « Waouh, la maladie, elle a créé ce lien tellement fort que voilà, quoi, il oublie tous ses préjugés qu'il avait de un peu de d'homme macho, quoi, de se dire « Non, ben moi c'est bon, j'ai déjà vécu ma vie, je n'en referai pas une autre avec une autre femme. » Et là, pour moi, c'est « Waouh, allez !»
OK, la tumeur, elle a disparu, mais quand même, quoi. Je sais que même si elle a disparu, ben, il y a encore du traitement lourd. Il va y avoir l'opération, une tumeuroctomie, il va y avoir de la radiothérapie en apnée, parce que c'est sein gauche. Et sein gauche, ben, du coup, quand la radiothérapie irradie, elle risque d'affaiblir poumons et cœur. Donc, on m'explique qu'il va falloir rester 20 secondes en apnée à chaque rayon. Donc, c'est assez difficile à gérer. Je descends tous les jours à l'hôpital pour faire ma séance qui dure 20 minutes. Mais au fil des séances, je me rends compte que ben, finalement, je peux rester plus longtemps en apnée. J'ai été surnommée à l'hôpital Jacques Mayol. Parce qu'en fait, j'arrivais à rester en apnée jusqu'à 50 secondes. En plus, Eric me promet qu'il va y avoir le mariage à la fin des traitements. Donc, les fins des traitements approchent. Bah, dans ma petite tête, je dis bon, bah, on va commencer à organiser ce mariage. Là, on est début mars 2023. Je ne veux pas de mariage traditionnel avec la robe de mariée, avec la pièce montée, avec les dragées, enfin tout le tralala, enfin tous les trucs. Voilà, je veux quelque chose d'atypique en fait. Je me dis pourquoi pas faire un petit mariage en catimini, juste avec nos témoins. C'est l'année des 60 ans d'Éric. Et là, je me dis, bah tiens, pourquoi on ne ferait pas... Je te prévois une super fête pour ton anniversaire. On se marie juste une semaine avant. On le dit à personne. Et le jour de ton anniversaire, ben là, c'est la grande surprise. Je m'enfile vite fait un jupon en tulle blanche, toi un costume, et on fait un petit show et on leur annonce qu'on est mariés. Je dis, ouais, pourquoi pas. Écoute, j'aime bien l'idée et tout. Vas-y, occupe-toi-en. Donc, je commence à m'en occuper. Donc, on est ouais, mars... Avril, je commence à faire un listing des invités, je lui parle des témoins, alors je lui dis je prends mon fils pour témoin, toi tu prends le tien, je regarde pas combien il en faut, s'il en faut un, s'il en faut deux, c'est un peu, voilà. Moi mon idée c'est lui faire plaisir, lui faire sa fête des 60 ans, on va dire que le mariage c'est plus, c'est beau, c'est cette promesse, mais on va dire que je veux lui faire plaisir et je veux qu'il y ait une belle fête pour son anniversaire. Sauf que quand je lui parle des détails, des témoins, de tout ça, il est assez, fuyant. Et là, je comprends plus trop ce qui se passe. Quand je lui en parle, je le sens fatigué, je suis assez inquiète. Je pense qu'il fait un burn-out. Je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est vrai que bon, c'est compliqué aussi pour les aidants, ce genre d'épreuve. Je me dis, bon, ben, c'est le contre-coup du cancer. Il est pisciniste, donc c'est la grosse saison qui commence. On est avril, mai, voilà, ça commence. Quand je lui parle de la liste des invités, je lui parle des témoins, il me dit « Écoute, j'ai pas la tête à ça en ce moment, on verra ça en septembre. » J'en parle à mes amis, un peu à tout le monde autour de moi, et en plus mes copines qui sont là et qui me traquent pour organiser mon enterrement de vie de jeune fille. Je dis « Écoute, je sais pas, je comprends plus, là, Eric, je suis inquiète, je pense que ça va pas. » Mais du coup, je laisse tomber l'organisation. Je me dis « Bon, ben, on verra plus tard. » Pour essayer de lui redonner un peu le sourire et tout, je lui dis, écoute, ben, viens, on se fait des trucs, on va au resto, on va au ciné. Et chaque fois, c'est le refus, c'est non, je suis fatiguée, j'ai pas envie, il s'endort tôt le soir. Et puis un jour, il me dit, on fait quoi samedi? Ben, je lui dis, ben, on n'a rien. Il me dit, tu sais quoi? On se casse la journée. On se fait un resto, ça me changera les idées. Moi, super contente de son initiative. Parce qu'Éric, c'est quelqu'un de très sociable, il aime faire la fête. Mais il a un défaut auquel je me suis habituée au bout de 27 ans de vie commune. Il ne m'a jamais fait de surprise. Enfin, presque. Parce que nous voilà le samedi, donc 24 juin, au matin. Il me dit, habille-toi, t'habilles assez classe, hein. J'ai réservé un resto gastro. Mais avant, je dois passer à la mairie récupérer un dossier. Je dis, ok, ça va, pas de souci. On nous voilà partis le samedi matin, on se gare devant la mairie. Et là, il me dit, viens avec moi. Je dis, ben non, ça va, je t'attends dans la voiture. Vas-y, dépêche-toi, je t'attends pour aller au resto. Non, non, mais viens avec moi, Mais devant son insistance, je me dis, bon, allez, je m'exécute et je le suis. Donc, on arrive devant la porte de la mairie. Il tire la porte d'entrée. Et là, je vois une petite fille avec un bouquet de mariée. J'entends une musique de mariage. Je vois une dame qui filme avec son iPhone et là, je lui dis, mais enfin, Eric, il y a un mariage. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Ne rentre pas. Et puis là, il me tire. Il me dit, non, non, mais ça va, on passe sur le côté, on longe le mur, t'inquiète pas. Je lui dis, mais enfin. Et là, il me tire le bras et il me fait rentrer. Rien que d'en parler, j'ai le frisson et là, je comprends tout. Je reconnais, en fait, la petite fille avec le bouquet de mariée, c'est ma nièce. Que j'avais pas reconnue parce que j'étais à mille lieues de penser...
quand je lui dis ne rentre pas, il y a un mariage, ben, ce mariage, c'est en fait, c'est notre mariage, quoi. Je reconnais ma belle-sœur qui est en train de filmer, et là je regarde et je vois les invités, ben, les complices du coup de la surprise qu'ils préparaient depuis 3 mois. Maintenant je comprends mieux au fur et à mesure toute cette fatigue qu'il avait en fait. Parce que là, ben, pendant 3 mois, il a tout organisé sans que je puisse m'apercevoir de quoi que ce soit.
Il a été très fort sur le coup.
Alors je comprends que ben, ce mariage, c'est pas un mariage, c'est notre mariage. Et là je suis effondrée, j'ai des larmes. Je regarde un à un les personnes qui sont là et puis je me rends compte de ce qui s'est passé la veille avec la copine qui m'avait dit « Viens, on va boire un coup ». Mais en fait, elle me dit « Viens, on va boire un coup » parce que mon fils, qui s'est engagé dans l'armée de l'air en début d'année, venait pas souvent à la maison et ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Et ce fameux week-end où on se marie, il me dit « Maman, ce week-end, je vais pas pouvoir venir, j'ai pas ma permission ». Là, je suis un peu déçue. Je dis, putain, il y a un moment que je t'ai pas vu. Et là, je regarde un à un les personnes et je vois mon fils, qui lui aussi était complice et il m'avait raconté pareil. C'est un mensonge, mais quel mensonge, quoi. La copine, donc, qui m'avait dit, on va boire un verre, c'était pour me lever du milieu, pour que mon fils puisse venir à la maison récupérer des affaires, pour pouvoir être au mariage le lendemain. C'est la deuxième effondrement de pleurs. La première émotion, c'est « Waouh, c'est notre mariage !» Et la deuxième émotion, « Waouh, mais c'est pas vrai, t'es pas punie, t'es là !» Avec le recul, là, je me rends compte de tout ce qui s'est passé et cette complicité là, qu'il y a eu entre tous, c'était énorme. Je dis bonjour un à un à tout le monde. Bon, il y a des pleurs... Puis voilà, le mariage, je dis un grand oui, il dit un grand oui. Je sors de la mairie, je suis toujours sur un petit nuage. Ça y est, je suis mariée avec Eric. J'ai l'impression d'être le personnage d'un conte de fées, en fait. Je me pince, mais non, c'est la réalité, quoi. Je suis mariée. C'est la concrétisation d'un amour intense, d'un lien fort qui s'est créé avec et au travers de ce cancer. Tout me traverse, je réfléchis à tout. Mais en fait, je m'en fous, en fait. L'organisation de comment il a fait quoi, j'ai pas envie de savoir. Je vis l'instant présent, quoi. Cette émotion, je veux la garder et je l'ai encore, là. Là, aujourd'hui, ça fait un mois. Quand je vois la vidéo du mariage, j'ai encore toujours le frisson, j'ai les larmes qui coulent. C'est un moment qui va rester gravé à vie. Après le mariage, donc 2 jours après,
je décide de faire un montage vidéo de ce mariage surprise. Mais vraiment que du mariage surprise. Je parle pas de l'épreuve cancer. Juste, je fais mon petit montage.
Quand on me voit entrer... dans la mairie, mais que je retiens Eric, là, j'indique, mais on ne rentre pas, il y a un mariage. Faut que la personne qui voit la vidéo comprenne pourquoi je veux pas rentrer, en fait.
Puis on m'entend pas parler, puisque je mets un fond de musique, je mets Shallow de Lady Gaga. Et je poste cette vidéo sur les réseaux sociaux, donc Facebook et mon Instagram. J'avais un petit compte, hein, un petit compte de 400 followers. Je poste cette vidéo, et en l'espace de... peut-être 10 jours, j'arrive à des millions, enfin je saurais pas dire exactement, mais là aujourd'hui, donc on est à un mois et quelques jours du mariage, je suis à 3 millions de vues. Au final, avec tous les commentaires que j'ai eus, je me dis, mais ça fait du bien en fait, cette vidéo a fait du bien aux gens malades. Et je me rends compte, en fait, tous les commentaires que j'ai, c'est vraiment que du positif. Je sens que les gens m'ont beaucoup de messages privés. « Mais madame, vous m'avez mis un coup de pied au cul, je suis malade depuis 5 ans et je me suis renfermée sur moi-même. Mais là, merci, je veux m'en sortir, je vais y arriver, je vais me battre pour vaincre la maladie. » Donc voilà, c'était un message à la base juste parce que j'étais tellement dans mon compte de fées, mon petit nuage sur mon mariage surprise que j'ai voulu le partager avec mes amis qui me suivaient. Et au final, ça a été une vidéo virale, surtout sur Instagram. Je sens que ça fait du bien aussi, de l'autre côté de l'écran, à des personnes qui ne me connaissent pas. Hein. J'ai des commentaires étrangers, du Chili, d'Espagne, d'États-Unis, c'est incroyable. Il y a une semaine, l'oncologue a prononcé le mot « rémission ». Rien que d'entendre ce mot « rémission », ça a été pour moi encore un aboutissement, de me dire « waouh, ça y est, quoi, on te l'a dit, t'es guéri ». Les médecins ne prononcent pas le mot « guéri hein, », parce que bien sûr, j'ai toujours l'épée de Damoclès sur la tête. Hein. Un cancer, ça peut revenir, surtout celui-là.
Mais bon, pour l'instant, voilà, je pense pas au fait que ça puisse revenir. Même si c'est un petit peu dans une case de mon cerveau, j'essaye de pas y penser et de vivre tous les jours comme si c'était les derniers, en fait. Parce que ce cancer m'a permis de comprendre que la vie, on n'en a qu'une et qu'il faut en profiter à 100%. Ne pas se prendre la tête pour des petites bricoles de la vie. Ne pas bouder, ne pas se disputer et laisser partir l'un, claquer la porte, parce que ben, peut-être que le jour où il a claqué la porte, ben, il va avoir un accident et que ben, on ne le reverra plus. Toujours s'aimer et y croire. Ben, la maladie, faut la vivre, elle est là et il ne faut pas la laisser prendre le dessus sur vous. Donc nous, on s'est dit, on va le dégager, le cancer. On y est arrivé et voilà. J'espère que cette vidéo qui est diffusée sur les réseaux va donner encore plus d'espoir aux gens malades. Même aux gens qui ne sont pas malades, mais qui sont entourés de gens malades. Faut passer le message. Et surtout, voilà, moi, le message que je veux passer, parce que je vais continuer à alimenter ce compte Instagram pour passer le message. Les filles, à n'importe quel âge, ben, palpez-vous les nénés, quoi. Autopalpez-vous, parce que moi, cette petite boule, ben, je l'ai trouvée toute seule. J'ai pas attendu une mammographie qui m'a diagnostiqué ce cancer. Il faut connaître son corps, il faut le découvrir et dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ben, il faut consulter. Ce mariage surprise, ça a été la concrétisation d'un amour intense, d'un lien fort qui s'est créé avec Eric, avec et au travers de ce cancer. On est à un mois de notre mariage et je suis toujours dans mon petit conte de fées.
Bon, si vous avez aimé Ex, c'est que vous aimez les histoires intenses. Alors je vous invite à découvrir notre tout nouveau podcast qui s'appelle Les Rescapés. En attendant, merci à Clémentine Delagrange d'avoir réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard de l'avoir monté et mis en musique.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.